franceinter.fr.
Les dinosaures et les oiseaux sont cousins et les indices comportementaux validant leur ressemblance s'accumulent de plus en plus. Une étude menée par des chercheurs français et chinois montre que l'oviraptosaure, une espèce de théropode relativement petit, couvait très certainement ses œufs pendant plusieurs mois. Une confirmation obtenue en Chine en analysant la composition osseuse d'embryons fossilisés dans l'œuf. Et on en parle avec vous, Romain Amiot, bonjour.
Bonjour Axel.
Bonjour, et c'est Mathieu qui vous parlait.
Pardon, bonjour Mathieu.
Bonjour à vous. Vous êtes premier auteur de cette étude parue aujourd'hui dans la revue Paléontologie. Vous êtes chargé de recherche à CNRS au laboratoire de géologie de l'Université Lyon 1. Alors d'abord, à quoi ressemblaient ces théropodes couveurs d'œufs?
Alors les oviraptorosaures, je me permets juste de corriger, il manquait une petite syllabe. C'était des donc ils appartenaient au groupe des théropodes, donc des petits dinosaures qui de la même famille que les carnivores tels que le gigantesque T-Rex ou les petits vélociraptors, et qui étaient donc bipèdes, couverts de plumes a priori ou de protoplumes, et qui possédaient une sorte de bec. Et pas des donc les mâchoires à dents telles qu'on les connaît chez les autres dinosaures carnivores.
Alors comment est-ce que vous avez fait pour étudier ces dinosaures et savoir qu'ils couvaient leurs œufs? Vous avez trouvé des œufs, c'est ça?
Alors en fait, c'est grâce à une collaboration avec des paléontologues chinois, notamment de l'Institut de paléontologie des vertébrés de Pékin et le musée de Nanning qui est dans le sud de la Chine, j'ai pu avoir accès à des échantillons, donc des œufs qui contenaient à l'intérieur donc des préservés, les squelettes d'embryons de ces petits oviraptorosaures.
Et ça se trouve facilement ce genre d'embryons fossilisés?
Non, ce sont vraiment des fossiles très très rares. C'est pour ça qu'on a pu en obtenir que 7 pour l'étude, ce qui est déjà un nombre énorme. Mais ce sont vraiment des fossiles très très peu communs.
Alors ça veut dire que vous avez cassé la coquille?
En quelque sorte, oui. Nous avons appliqué une méthode donc qui consiste à analyser la composition isotopique, donc la chimie de ces coquilles d'œufs et puis des petits embryons. Et donc ça implique effectivement prélever un petit peu d'eau, prélever un peu de coquille pour l'analyse.
Ils faisaient quelle taille ces œufs, Romain Amiot, exactement? Alors, ils ressemblaient à quoi?
C'était des œufs alors très très allongés. Qui faisait à peu près une vingtaine de centimètres de long pour à peu près 7-8 centimètres de large. Et donc, ils ont été retrouvés donc notamment en Asie sous forme de donc dans des pontes complètes où en fait ils sont déposés deux par deux autour d'un sur en bordure enfin tout autour de enfin en cercle et donc pour moi un grand nid.
Alors, expliquez-nous comment on fait en analysant les os d'un embryon de dinosaure pour dire qu'il a été couvé.
Les œufs.
Les os de l'embryon dans l'œuf.
Ah, les œufs.
Oui. Donc en fait, la technique que nous utilisons, en fait, nous utilisons un thermomètre isotopique. Uh-huh. Donc c'est une méthode qui consiste à partir de différences infimes existant entre les atomes d'oxygène, donc qu'on appelle des isotopes, de retrouver à quelle température en fait se sont formés donc ces éléments os, coquilles d'œufs contenant cet oxygène. Alors, en fait, on connaît la relation qui existe entre le rapport d'abondance entre ces différents éléments, ces différents atomes d'oxygène et la température. Et en appliquant ces équations, on arrive à retrouver la température à laquelle l'os de l'embryon s'est formé. Donc, c'est la température de l'œuf, donc d'incubation de l'œuf. Et en fonction de cette température d'incubation, on peut en déduire la méthode à laquelle il a été incubé.
Ça, c'est une méthode qui est facile à réaliser, Romain Amiot, parce que là, en vous entendant, ça paraît très mathématique et très simple au fond, mais c'est très difficile sur le terrain à faire.
Alors oui, c'est pas du tout trivial. Il y a toute une étape de préparation chimique, d'analyse avec une machine qu'on appelle le spectromètre de masse, qui va nous mesurer les abondances relatives de ces différents isotopes. Et enfin, on se retrouve avec des valeurs. Et ensuite vient toute la phase d'interprétation. Jusqu'à arriver à déduire la température d'incubation de ces œufs.
Mais ça veut dire que chaque température est associée à un mode d'incubation ?
En fait, oui, on a des dans la nature actuelle, on a plusieurs les animaux qui pondent des œufs, donc les animaux ovipares, ont différentes méthodes d'incubation. On va avoir donc chez une grande partie des oiseaux la couvaison, donc qui consiste à s'asseoir sur son nid, sur ses pontes pour maintenir les œufs au chaud. Mais on va avoir également d'autres méthodes, comme par exemple les reptiles, beaucoup de reptiles et les tortues qui enterrent leurs œufs. Pour les protéger et les maintenir à une température qui va être celle de l'environnement dans lequel le nid se trouve. Également, certains animaux comme le crocodile indo-pacifique ou encore il existe un oiseau australasien appelé le mégapode qui, eux, fabriquent carrément un énorme monticule de végétaux et de boue dans lequel donc ils déposent les œufs et la chaleur produite par la décomposition des végétaux va être la température à laquelle vont être incubés les œufs. Et toutes ces différentes stratégies, en fait, vont se traduire par des températures différentes, donc des températures d'incubation différentes pour les animaux.
Alors, il y a un poids maximum quand on veut couver ces œufs à ne pas dépasser ?
Un poids maximum à ne pas dépasser, très probablement, j'imagine que vous avez tous en tête le diplodocus.
Ben oui, tous les géants, oui.
Effectivement, on imagine très mal le diplodocus s'allonger sur ses œufs qui sont du coup relativement petits par rapport à la taille de cet animal, sans les casser. Donc c'est fort possible que au-delà d'une certaine masse, la couvaison n'ait pas eu lieu. Mais par contre, il semble que, par exemple, un autre oviraptorosaure qui s'appelle le gigantoraptor, là, qui est un grand oviraptorosaure qui faisait jusqu'à 8 mètres de long pour plus d'une tonne, il est possible que lui encore pouvait couver ses œufs. C'est comme ça qu'il est encore représenté aujourd'hui.
Ça, c'est ce que vous allez essayer de faire ou que vous êtes déjà en train de faire, essayer d'adapter justement votre technique à des espèces plus grosses ou pas ?
C'est l'objectif, hein. Ça va être la prochaine étape. Effectivement, ça va être d'accéder à des œufs avec l'embryon à l'intérieur préservé de beaucoup de dinosaures plus gros et appartenant surtout à d'autres groupes que les théropodes, puisque les théropodes, c'est la lignée qui a notamment conduit aux oiseaux qu'on retrouve aujourd'hui. Mais effectivement, l'idéal, enfin pour nous, ce serait de pouvoir accéder à des pontes de sauropodes, donc Diplodocus et tous ces congénères.
Alors ça veut dire que vous allez frapper à la porte d'autres laboratoires chinois pour avoir d'autres œufs ?
Alors pas que chinois, parce que des œufs contenant des embryons, il en existe un peu partout dans le monde, notamment en Afrique du Sud, avec des pontes de ce qu'on appelle les prosauropodes, donc des sauropodes primitifs qui existaient à la fin du Trias ou au début du Jurassique, mais également en Amérique du Sud, où en fait il existe des pontes avec des œufs contenant quelques embryons de titanosaures, donc encore des grands dinosaures sauropodes dont les méthodes d'incubation restent discutées. Ce qu'on espère, c'est que cet article va nous ouvrir les portes de ces musées et de ces collections pour pouvoir poursuivre l'étude.
Alors, en tout cas, bravo Romain Alliot, puisque vous êtes premier auteur de cette étude, parue aujourd'hui même dans la revue Paléontologie, autour donc de la couvaison des théropodes faisant partie des oviraptorosaures. Oui. C'est bien ça. Merci beaucoup à vous pour ces précisions. Et puis Axel, on se retrouve demain pour une nouvelle lune. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique. Et si notre langue était capable de sentir l'eau, des chercheurs de l'université de Pasadena suggèrent qu'en plus des 5 saveurs, sucré, salé, amer, acide et umami, les mammifères pourrait être également capable de détecter spécifiquement la présence d'eau dans leur bouche via les récepteurs de l'acidité. Une série d'expériences menées sur la souris montre qu'en remplaçant progressivement les biberons d'eau dans les cages des souris par des sources de lumière qui stimulent les récepteurs à l'acidité, les chercheurs ont réussi à berner les souris, leur faisant croire qu'elles buvaient alors qu'elles léchaient une source de lumière. De plus amples études moléculaires seront nécessaires pour valider la découverte et peut-être un jour affirmer que l'eau a un goût. La couche d'ozone qui a du mal à se reformer à cause d'un nouveau polluant issu de l'industrie chimique, des chercheurs australiens tirent aujourd'hui la sonnette d'alarme à propos du dichlorométhane, comme les fameux CFC, responsables il y a 50 ans du trou dans la couche d'ozone. Le dichlorométhane, quand il est bombardé par les rayonnements solaires, émet de la chlorine qui à son tour détruit les molécules d'ozone. Les concentrations de ce gaz dans les hautes couches de l'atmosphère ont augmenté de 8% chaque année entre 2000 et 2012 et pourraient bien continuer. Il s'agit maintenant pour les chercheurs d'essayer d'identifier les principaux secteurs émetteurs de ce nouveau polluant pour tenter de les sensibiliser à ce problème. Et puis enfin, les passereaux des villes savent se débarrasser des puces et des tiques dans leur nid et ils se servent pour cela de vos mégots de cigarettes. Cette découverte est peut-être une première preuve d'automédication chez les oiseaux. Pendant plusieurs mois, des chercheurs mexicains ont étudié le comportement du petit roselin familier sur le campus de Mexico. Pour tester leur réaction en cas d'invasion de parasites, ils ont artificiellement provoqué une infestation dans la moitié des nids de leur étude. Eh bien, ils ont remarqué que les oiseaux se sont mis en quête de mégots de cigarettes pour garnir leur nid. La nicotine étant connue pour ses vertus antiparasites.